Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et un grand bonjour à Tanguy Viel.
Bonjour.
Vous êtes donc le lauréat du Grand Prix RTL Lire 2017, Tanguy Viel. Les 100 lectrices et lecteurs de notre jury ont élu à une large majorité votre roman. Article 300,
c'est très important en l'occurrence.
Article 353 du Code pénal, publié aux éditions de Minuit, un titre qui ne passe pas inaperçu, bien entendu. Mais on ne dira rien de cet article 353 pour ne pas déflorer la fin de votre livre. À mes côtés, Bernard Lohu, bien sûr, et Julien Bisson, rédacteur en chef de notre partenaire, le magazine Lire. Tanguy Viel, ma première question est toute simple. Qu'avez-vous envie de dire finalement aux 100 membres du jury qui vous ont choisi ?
Alors, je devrais dire merci aux tant qui ont voté pour moi.
C'est vous qui choisissez.
Merci surtout. Alors, je connais le processus, c'est-à-dire, je crois qu'il y a des libraires aussi qui choisissent des lecteurs.
Oui. 20 libraires partenaires.
Ouais. Voilà. Et donc, plutôt remercier vraiment toute la chaîne qui mène à ces 100 lecteurs et qui ont le courage de lire quand même 5 livres en moins de 2 mois. Parce que c'est ça.
Il y avait 5 finalistes, exactement.
5 finalistes, oui. Voilà.
Un prix de lecteur, ça a une saveur particulière, une dimension, on va dire, à part pour un écrivain, Tanguy Viel ?
C'est peut-être le plus important, c'est sûr, d'avoir... Après, tous les prix sont bons à prendre.
Oui. Mais le nôtre, encore
mais
plus bon.
Mais le vôtre, d'abord, c'est mon premier.
C'est ce que j'allais dire, vous n'en avez pas eu tant que ça jusqu'à présent.
Oui. Exactement. Donc, voilà.
Bernard Lohu, dès l'apparition en janvier d'article 353 du Code pénal, vous nous aviez dit tout le bien qu'il fallait penser du roman de Tanguy Viel, je m'en souviens très bien. Alors, rappelez-nous... Quelle en est la trame ?
Alors, une brève scène d'ouverture, 6 pages, pas plus, qui vous coupe le souffle comme un plongeon dans l'eau glacée. 2 hommes sur un bateau pour une partie de pêche, sans crier gare. L'un pousse l'autre par-dessus bord, puis rentre au port. Pourquoi ce geste insensé ? Eh bien, au chapitre suivant, on retrouve le meurtrier face au juge d'instruction. Les 160 pages suivantes seront sa longue confession et la révélation des clés de son crime. Un huis clos haletant, ponctué de retours en arrière vertigineux. Et une terrible question en suspens, un coupable peut-il être absous ? Tanguy Viel, pourquoi avoir choisi ce dispositif du face-à-face dans le bureau d'un juge ?
Je crois parce que ça me permettait d'imaginer que le juge n'était pas que juge, mais aussi peut-être un peu psychologue, et qu'au fond c'était un espace assez merveilleux, d'un point de vue romanesque, pour lancer une parole qui pouvait s'étendre comme ça sur plusieurs heures, et avoir le sentiment que le narrateur, Martial Kermer, donc cet homme un peu... qui a subi quand même une injustice profonde, pouvait recomposer, essayer de réenquêter sur sa propre existence, au fond, qui a l'air d'être un peu en morceaux quand il débarque. Et je crois que dès le départ, j'ai eu ce dispositif, cet endroit, ce petit bureau un peu feutré du juge d'instruction qui écoute. Alors peut-être, selon ce qu'on pense de la justice, ce juge écoute beaucoup, peut-être plus que les juges d'en haut, mais encore que... Pour avoir rencontré des juristes, il semblerait que ça existe, des juges qui sont prêts à écouter pendant des heures la confession d'un présumé coupable ou présumé innocent.
Alors, ce meurtrier s'appelle donc Kermer, vous l'avez dit, c'est un ancien ouvrier de l'arsenal de Brest qui a perdu toutes ses économies confiées à celui qui va devenir sa victime, celui qu'il pousse à l'eau, Lazenec, un promoteur véreux qui lui avait fait miroiter la création d'un Saint-Tropez breton, puisque tout cela se passe dans la rade de Brest. C'est un sacré salaud, ce Lazenec.
Oui, je dois dire que c'était un peu la figure initiale, c'est celle qui a lancé vraiment le livre pour moi.
Ah oui, à part de là, de lui.
Pour une bonne part, oui. Alors, bien sûr, mais je me souviens que j'avais un petit fichier il y a très longtemps, que j'ai mis longtemps à réexplorer, qui disait, et si un type débarquait dans la rade de Brest et voulait construire une station balnéaire, voilà. Mais c'était tellement... c'était 2 lignes dans un fichier, ouais. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec ça, mais cette idée était tellement absurde, au fond, que dans son absurdité, elle avait quelque chose d'un peu excitant d'un point de vue romanesque.
Vous notez des petites idées comme ça
Faut jamais les perdre, les idées.
Oui, donc tout ça est consigné.
Tout ça est consigné, mais le problème, c'est que tout ne prend pas tout de suite une ampleur romanesque, justement.
La question est un peu au premier degré, mais c'est normal qu'on vous la pose. Le plus grand crime, finalement, c'est de balancer un gars à la mer ou c'est de tromper et de ruiner des centaines de gens modestes ?
Si vous voulez vraiment mon avis...
Oui, on le veut.
Faites attention, Tanguy Viel. La vie est sacrée. Non, allez-y. Bon,
ça se passe dans l'espace de la littérature. Je ne sais pas s'il faudrait dire qu'il faut faire la même chose dans la vie, mais je crois que j'ai une très grande sensibilité à l'injustice, à l'escroquerie. C'est quelque chose qui Oui, qui m'énerve profondément, donc j'ai comme tout le monde au fond, ces pulsions de haine, ces pulsions un peu voilà de revanche, qui fait que si vous me dites dans la balance, oui, l'impunité des escrocs et le fait qu'à un moment, par exaspération peut-être, quelqu'un décide de passer à l'acte et de commettre un geste certes répréhensible, mais enfin. Non, comment vous dire, je ne sais pas. Parce que je ne vais pas vous dire, oui, il faut le faire. Mais je me dis, heureusement, le roman permet ça.
On peut le dire autrement. Vous êtes du côté de Kermeur.
Oui, voilà. Merci.
Et puis à chaque lecteur et lectrice de se forger son intime conviction oui. En vous lisant. Alors, Kermeur a tout perdu. C'est un roman aussi sur la honte et la culpabilité d'avoir été berné, de s'être fait avoir.
Oui. Oui, je pense qu'une bonne part de sa nécessité à raconter cette histoire, c'est pas tant se justifier que peut-être se réparer de tous les silences, de tous les renoncements, de toute la... Et ça, c'est le problème des gens qui ne sont pas du côté du pouvoir, au fond, souvent. C'est qu'ils se retrouvent dans des situations où, en fait, en face d'eux, il y a tellement de force qu'ils cèdent, mais par petites touches. C'est-à-dire, au fond, c'est plein de petites façons d'être un peu débordé par la présence de l'autre, son brillant. En l'occurrence, le côté un peu hableur, un peu... Voilà, moi, c'est vrai qu'au départ, la première image qui m'est venue pour constituer ce personnage d'escroc, c'était un peu Bernard Tapie, si vous voulez.
Ah bah c'est gentil, il va être content, encore nous envoyer des SMS. Alors, il y a une dimension politique dans votre roman. On est au cœur des années 80, ce sont les années fric. Alors, à l'époque, en effet, Bernard Tapie est particulièrement présent, même à la télévision. La gauche est au pouvoir. Pour beaucoup de ceux qui ont voté pour elle, elle a trahi ses idéaux, en fait, en frayant avec le monde de l'argent et des affairistes, c'est ça ?
En partie, c'est ça. C'est vrai que j'avais besoin d'inscrire toute cette fiction dans un cadre historique précis, qui est celui, en effet, du climat des années 80-90. Et Kermeur, en effet, est un socialiste. Le maire du village, qui va aussi signer ce contrat un peu mirobolant avec le promoteur, est un socialiste. Et tous ces gens, finalement, ont un peu renoncé à leurs grandes utopies. Et c'est vrai que c'est un peu l'image que j'ai des années 80, au fond. C'est-à-dire... C'est pas évidemment la question, c'est pas Bernard Tapie ou je sais pas qu'il soit un escroc ou pas un escroc, c'est pas la question. C'est par contre c'est la présence de l'argent et la collusion de l'argent avec un socialisme qui jusqu'alors n'était pas habitué. Et il me semble que Mitterrand a bien joué le jeu pour ça quand même.
Alors Julien Bisson, vous êtes le rédacteur en chef. D'abord bienvenue parmi nous. Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Lire. Vous êtes bien entendu partenaire du prix attribué aujourd'hui à Tant qu'il vielle. Qu'est-ce qui vous a tout particulièrement touché et qu'avez-vous aimé dans cet article 353 du Code pénal.
D'abord, j'aimerais saluer le choix des lecteurs du prix RTL Lire, parce que, comme presque chaque année, ils sont sacrés, peut-être le meilleur roman français de ce début d'année. Un roman brûlant, un roman dévorant, qui nous glisse dans la parole d'un homme, la parole torrentielle d'un homme d'habitude de peu de mots, et qui se trouve face à ce juge, libéré, et qui d'un seul coup, qui voit toute sa vie prendre une forme de ligne qui permet de tout comprendre. C'est une confession chabrolienne sur 180 pages, l'aveu d'une faute que tout explique, que peut-être toute excuse, car le roman de Tanguy Viel, c'est surtout un grand roman sur la violence des puissants sur de leurs droits, la violence infligée aux plus fragiles, devant notaire, la violence de ce capitalisme en costume de flanelle, aussi doux que les conséquences sont dramatiques, cette violence cause des morts, cette violence cause des drames, une souffrance démultipliée par la honte et les regrets. Alors moi, j'ai peut-être envie de vous interroger, Tanguy Viel, vous avez utilisé les codes du roman policier dans la plupart de vos livres, sans pour autant les résumer à des polars. Est-ce que le roman noir, au final, ce n'est pas le meilleur genre pour traquer les défauts, les zones d'ombre de notre société?
Ah, mais c'est vrai que ce sont des situations qui poussent les curseurs au maximum au niveau des états d'âme, des émotions et des sentiments. Moi, je pense toujours à des écrivains qui, au moment où ils ont écrit, ont un peu été considérés comme des romans policiers, par exemple Dostoïevski. Mmh. Et pourtant, en fait, derrière, ce qui s'explore, c'est évidemment les tréfonds de l'âme. Donc, dans ce roman-là, le fait d'avoir un argument aussi policier, c'était pour moi la possibilité d'aller chercher tous les atermoiements compliqués d'un être pris dans le retour sur sa vie, dans la culpabilité, mais pas tant en même temps. Voilà. Oui, bien sûr, moi je trouve que le roman policier, pour ça, est merveilleux parce qu'il permet d'avoir des moteurs de narration très forts. L'envie de réparation, l'injustice. Oui, bien sûr.
Alors nous allons marquer une pause avant de nous retrouver. Tanguy Viel, et de donner également la parole aux lectrices et aux lecteurs qui vous ont attribué le Grand Prix RTL Lire 2017 pour votre roman Article 353 du Code pénal. Je rappelle que ce livre est édité aux éditions de Minuit. Restez avec nous, à tout de suite. Et on va vous le faire gagner.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes donc toujours en compagnie de Tanguy Viel, le lauréat du Grand Prix RTL Lire 2017, dont nous sommes particulièrement fiers pour son roman Article 353 du Code pénal, édité aux éditions de Minuit, et que nous vous ferons gagner, dédicacé dans quelques minutes. Je vous propose, Tanguy Viel, d'écouter quelques lectrices et quelques lecteurs membres du jury, joints par Bernard Lehu.
Alors, la première à s'exprimer, elle fait partie du jury de la librairie Charlemagne, à la Seyne-sur-Mer, dans le Var. Je rappelle que 20 librairies, aux quatre coins de la France, sont partenaires du prix. Cette lectrice s'appelle Valérie Birot. Elle a souhaité évoquer un aspect bien précis de votre personnage principal, Kermeur.
L'histoire qu'il a avec son fils, j'ai été énormément sensible à la relation qu'il avait avec son fils et le fait que ce fils l'ait soutenu sans lui en parler, ce silence qu'il y a eu entre deux et puis la réaction qu'il a eue. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit, j'adorais.
Et justement, Erwan, le fils, c'est peut-être la dernière richesse qui reste à Kermeur, votre personnage ruiné et devenu assassin, non ?
Oui, c'est peut-être en dernier lieu, sous le couvert de tout ce discours au juge d'instruction, c'est peut-être la vraie personne à qui il adresse sa parole, en fait. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qu'il voudrait réparer, ce serait la relation un peu ratée avec son fils. Et puis, c'est la manière aussi dont le fils fait miroir à une vie d'échec ou de... Peut-être pas tant d'échecs d'ailleurs que de petites lâchetés ou de petits ratages et qui font cet engrenage un peu irréversible. Mais c'est sûr que c'est... Pour moi, peu à peu, à mesure que le livre avançait, le fils devenait le motif le plus important dans la manière dont il venait faire un peu écho en fait à l'image de ce que c'est qu'une existence, en fait.
On va faire place à un lecteur, cette fois du côté de Bordeaux, Bernard.
Oui, Jonathan Hitson, du jury de la librairie Mola.
Ce qui reste, c'est un regard à ras des hommes, quoi. Il n'y a pas de jugement, c'est profondément humain. On peut retrouver toute cette humanité un peu bafouée de nos jours. Et comment ça peut amener à faire des choses un peu déraisonnables. Ça m'est arrivé d'avoir affaire à des gens d'une honnêteté assez relative et d'imaginer que si je pouvais les pousser d'un bateau ou du toit, ça serait pas mal.
Ah ben voilà, tout est dit. Alors Tanguy Viel, est-ce qu'il vous arrive vous aussi d'avoir ce genre de pulsion ?
Oui, ben heureusement, ça reste à l'espace du fantasme. Il y a deux endroits où on peut avoir des fantasmes sans culpabilité, c'est dans le bureau d'un psy et dans la littérature.
C'est juste. La parole maintenant à une lectrice de la région parisienne.
À la librairie Les Mots en Marge, c'était à la Garenne Colombe, Sylvie Bouleg, enthousiasmée par votre, et à juste raison, par votre savoir-faire, Tanguy Viel.
La construction est absolument éblouissante, puisque de toute façon, il n'y a pas de suspense, on sait dès le départ ce qui s'est passé, mais malgré tout, le récit est absolument haletant. Et puis, j'ai trouvé que le style de Tanguy Viel paraît très simple et très épuré, mais je suis sûre que derrière, il y a beaucoup de travail.
Alors, Sylvie a raison, il y a beaucoup
Merci.
De travail, Tanguy Viel.
Je crois qu'il y en a un petit peu, oui. Mais le travail, notamment, puisqu'elle évoque la notion de style, souvent, le style, c'est d'abord de fabriquer des phrases qui souvent viennent assez naturellement. Le style, c'est quelque chose qui vient un peu par bloc,
oui, vous savez. Oui.
Mais après, ce qui est très long...
Non, je ne sais pas, mais c'est intéressant que vous nous l'expliquiez.
Et ce qui est très long et très, qui demande beaucoup de retravail, c'est de composer, d'enchaîner les phrases, les paragraphes, pour que, en quelque sorte, si possible, ils tombent en cascade les uns sur les autres, pour qu'il y ait une forme de fluidité ou d'évidence du récit, et qu'on ait le sentiment, si possible, que chaque chose est absolument nécessaire et à sa place. Et ça prend beaucoup de temps.
Vous savez, ça fait du bien, et c'est presque émouvant d'entendre un auteur comme vous récompensé aujourd'hui pour la qualité de son œuvre et de son travail, nous expliquer à quel point ce travail est artisanal et que les doutes, moi je pense même aux gamins qui passent leur bac et qui peuvent vous écouter, qui disent « Ah bon, alors lui aussi, il a des difficultés à mettre en place tout ça, et à donner une cohérence », c'est extrêmement rassurant.
Et d'ailleurs, il faut souligner que vous prenez votre temps entre chaque livre. En moyenne, vous êtes sur une fréquence d'un roman tous les 4 ans, quoi, à peu près, depuis le début. Alors, nos 3 jurés, figurez-vous qu'ils souhaitaient aussi vous poser une question. Ah. On retrouve Sylvie de la Garenne Colombe.
Vos livres se passent essentiellement en Bretagne. Et quand vous écrivez, est-ce que vous êtes face à la mer et est-ce que vous imaginez justement un paysage qui vous avait servi de base à votre roman ?
C'est-à-dire que la Bretagne, j'y suis né, j'y ai grandi, mais précisément je l'ai quittée assez jeune. Et donc je ne travaille surtout pas face à la mer. Je crois que si je travaillais face à la mer, je ne pourrais plus écrire parce que ça me suffirait. Et à l'inverse, de savoir qu'elle est à 500 km de chez moi, ça la recompose dans un imaginaire qui est cette fois que je peux transformer ou que je peux réutiliser, au fond sans obsession de réalisme, mais simplement parce que c'est un décor fécond pour moi.
Il y a quoi en face de vous dans votre bureau ?
Longtemps, il y a eu une carte des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, il n'y a pas grand-chose. Il y a les arbres de mon jardin. Ce qui n'est pas rien.
Vous habitez du côté de la Sologne, hein, je crois, oui, qu'on peut le dire. Il y a aussi de l'eau, mais de l'eau douce. La mer, on y revient, puisque à la Seyne-sur-Mer, voici la question de Valérie.
Est-ce que lui-même a vécu un problème avec un agent immobilier, par exemple?
Non, pratiquement tout est fiction dans le livre, à part quelques petits épisodes, mais qui ne sont pas forcément les plus...
Oui, ceux que l'on croit.
Exactement. Plus, ouais. C'est pas ce que l'on croit.
Mais oui, bien sûr. C'est toujours comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça, j'en sais rien. C'est comme ça que je l'imaginais.
D'où viennent les idées de vos livres? Qu'est-ce qui motive le début d'un livre?
C'est le hasard heureux d'avoir une idée. C'est une chose sur laquelle j'aimerais enquêter pendant quelques années, à savoir comment ça se fait qu'on ait des idées et pourquoi on a telle idée plutôt que telle autre. Et pourquoi telle idée, à un moment... Parce que des idées, on en a tout le temps, en fait. Mm-hmm. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle s'arrête. C'est qu'on arrive à la fixer un tout petit peu et puis ensuite de voir qu'à l'intérieur d'elle, il y a un monde qui s'ouvre. Voilà. Moi, j'ai l'impression que selon les périodes de ma vie, je trouve, à travers un narrateur, à travers un type d'intrigue, peut-être le bon masque par lequel je vais pouvoir rencontrer ma propre intimité en réalité. C'est-à-dire que ce sont... Peut-être ce livre-là, j'aurais pas pu l'écrire il y a 15 ans, parce que tous les problèmes qu'il évoque sont des problèmes qui, à un moment ou à un autre, sont les miens, en fait. Mais pas de manière, encore une fois, réaliste ou pas, c'est pas celui d'un agent immobilier ou quoi. Mais par exemple, ce sentiment un peu... Ce personnage qui a une cinquantaine d'années, qui est un peu fatigué, envasé dans cette rade de Brest et tout ça, peut-être que c'est une part de moi.
Alors, après la question de Julien Buisson, on va retrouver encore une question.
Oui, là, il y a Jonathan à Bordeaux là, qui trépigne, et voici donc sa question.
Bonjour Tanguy Viel, merci pour votre livre, j'ai beaucoup apprécié. Et donc la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que vous nous réservez pour le prochain? Parce qu'il me tarde de pouvoir le lire.
Ah, c'est gentil. Mais le problème, c'est qu'il n'est absolument pas commencé. Et que ce qui se passe souvent, c'est quand j'ai terminé un livre, j'ai une longue période un peu de jachère, au fond. Et...
D'où les 4 ans.
Oui, parce que ce n'est pas les 4 ans au sens où je mettrais 4 ans à écrire le livre dont j'aurai l'idée tout de suite. C'est plutôt qu'il y a souvent une année et demie où je me sens un peu dépeuplé. Au fond, quand j'écris un livre, j'ai toujours l'impression que c'est le dernier. Donc, je mets tout ce que je peux dedans. Et donc, quand il est terminé, c'est comme si j'avais... Il y a un certain soulagement, d'ailleurs, à terminer un livre, pour moi, mais c'est comme si j'avais bouclé ou capturé un peu le petit monstre mental qui nous habite tous. Et après, il faut que ça se repeuple.
Donc,
et...
comme il se pourrait que ça dure 4 ans, on va vous offrir le Grand Prix RTL Lire 2017, article 353 du Code pénal, édité par Minuit, avec son beau bandeau rouge, tout frais, et votre dédicace, Tanguy Viel. Mais pour cela, il faut répondre à la question que vous pose Bernard Lehu.
Tanguy Viel situe son roman dans une célèbre rade. Mm-hmm. Laquelle?
Réponse au 32-10 dans un instant, suite et fin de notre rencontre avec Tanguy Viel.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Et avec surtout aujourd'hui le lauréat du Grand Prix RTL Lire 2017, Tanguy Viel, pour article 353 du Code pénal. Alors on l'a compris, Tanguy Viel, vos racines sont en Bretagne, vous avez 43 ans, votre premier roman date de 1998, celui-ci est le 7e. Vous avez toujours eu envie d'écrire?
Toujours. Mais j'ai longtemps eu envie d'écrire sans écrire. Enfin, je crois que j'ai longtemps, comme beaucoup d'adolescents, trouvé que écrivain c'était beau, ou que oui, même le mot écrivain était beau, mais pas forcément en s'y mettant. Et donc il y a quand même tout un temps où il faut comprendre que pour être écrivain, il faut écrire.
Le grand sourire de Julien Buisson de lire confirme ce sentiment.
Comment avez-vous franchi le pas à un moment donné? Voilà, il faut. On se lance.
Oui, écoutez, c'est la chance peut-être après le bac de m'être trouvé comme ça, seul, dans une ville où je connaissais pas beaucoup de monde et où j'avais du temps parce que je m'étais inscrit à la fac, mais ça me passionnait pas. Et donc je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit d'une manière un peu folle, j'avais 17-18 ans, je vais faire ça. Voilà. Et puis j'ai fait que ça.
Quels étaient les écrivains qui vous faisaient rêver à l'époque ?
Il y a eu plusieurs écrivains qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier. Tout à l'heure, j'évoquais Dostoïevski. Je crois que ça a été une rencontre extrêmement importante pour moi. Et puis, il y a eu, je crois, aussi beaucoup d'écrivains plus contemporains. Et je crois que pour écrire, c'est important de lire la littérature contemporaine. Enfin, la littérature qui a moins de 50 ans, disons. Et bon, c'est vrai que les écrivains des éditions de Minuit, par exemple, donc par exemple Samuel Beckett ou Marguerite Duras, ont été des écrivains très importants pour moi aussi.
Vous n'avez jamais été adapté au cinéma, alors que vos livres sont très visuels. Aimeriez-vous qu'article 353, par exemple, puisse être adapté au cinéma? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez avec sérénité, curiosité,
Oui. Il y a plusieurs personnes là, qui s'intéressent d'ailleurs à l'affaire. On verra comment ça peut se faire. Mais en effet, oui, moi je crois qu'il y a matière.
Julien Buisson, pardon. Oui.
C'est la première fois. Il y a eu une proposition d'adaptation au cinéma pour l'un de vos livres.
Il y a eu une adaptation d'Insoupçonnable, qui était peut-être le plus polar de mes romans, qui est un film qui est sorti en 2010.
Yves Calvi a raison de rappeler que vos romans sont très visuels. Est-ce que c'est comme ça que vous les voyez? Est-ce que vous-même, vous voyez le film se dérouler devant vos yeux quand vous écrivez?
Et justement, je vois très très mal d'un point de vue mental. J'ai du mal à... Vous savez, Balzac disait, pour écrire, il faut être un voyant. Et il avait raison, je crois. Et moi, je vois flou. Alors, je me force énormément, et je crois que j'écris des phrases pour essayer de faire le net. Quoi.
Mais pardonnez-moi, ça veut dire que vous ne donnez pas de visage à vos personnages?
Non, eh bien non, je n'ai aucun visage de mes personnages.
Oh la vache.
Oui. Je devrais peut-être pas le dire.
Non, mais vous avez les paysages.
Mais pour moi, un personnage, c'est une force électrique, magnétique. Ce sont des rapports d'intensité qui se créent avec d'autres. Ce sont des silhouettes quand même très dessinées. Et puis c'est vrai que je les charge de beaucoup d'images qui peuvent venir du cinéma ou justement de mes lectures préalables ou quelquefois de souvenirs d'enfance. Mais j'insiste sur ce mot-là, ce sont des forces. Donc j'ai pas forcément besoin de leur visage.
Je sais que c'est pas facile de répondre à cette question, mais quelle est selon vous la première qualité que doit posséder un écrivain? On vous demande pas une leçon, mais de vous engager. C'est pour vous finalement la première qualité de l'écrivain, c'est quoi?
C'est d'avoir une voix, de trouver une voix, VOIX. Mm-hmm. C'est-à-dire il faut que c'est un rapport à la musique. Si un écrivain qui n'a pas de musique, qui ne trouve pas la tonalité musicale d'une voix, pour moi il n'écrit pas.
C'est une belle réponse.
Alors ce lundi, ça tombe bien, c'est la journée de la langue française, RTL s'y associe, l'auteur de Petit Pays, lauréat du prix Goncourt des lycéens, Gaël Faye, sera l'invité, d'ailleurs je signale de RTL Midi avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. Est-ce que pour vous ce genre de journée, c'est utile ou ça relève du gadget?
Je savais pas que c'était la journée.
Voilà, déjà, c'était un début de réponse.
Donc, maintenant, vous êtes informé sur RTL.
Alors, je suis informé, il faut que je réponde dans les 10 secondes.
Oui, s'il vous plaît.
Ça fait beaucoup, quand même. Non, vous voyez, non, je n'ai pas d'idée sur la question, tout simplement. Mais est-ce que ça relève du gadget ou pas? Non, tout ce qui peut... Ce qui peut promouvoir l'affaire ou faire que dans un pays comme la France, ou comme dans n'importe quel pays du monde, il faudrait sans doute le faire, c'est que ça puisse être scénographié, mis en scène par les médias et rappeler que ça fait partie des données. Je veux dire, par exemple, quand on regarde les candidats à la présidentielle, on ne peut pas dire que la culture soit leur préoccupation principale. Donc peut-être qu'à cette aune-là, ce genre de choses peut rappeler que ça fait partie de l'existence.
Nous avons tous compris que vous étiez lecteur aussi.
Oui.
Quel est le dernier livre que vous ayez lu?
Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Natacha Apana, qui s'appelle « Tropique de la violence », qui est un livre qui est sorti chez Gallimard en septembre dernier. Très beau livre.
Ben voilà, c'est intéressant de savoir que nos auteurs lisent des livres. La cérémonie, je le précise, de remise de votre Grand Prix RTL Lire aura lieu donc jeudi soir au Salon du Livre à Paris, Porte de Versailles, où les visiteurs, me souffle Bernard Lehu, pourront vous rencontrer vendredi et samedi. Je pense que ça leur fera très plaisir. Et dans un instant, et avant de se dire au revoir, et bien Tanguy Vielle, nous donnerons la réponse à notre jeu, puisque nous offrons votre livre dédicacé de votre main avec ce bandeau RTL Lire dont nous sommes si fiers.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Tanguy Vielle, où se situe, enfin plutôt, dans quelle célèbre rade, pour être tout à fait précis, se situe votre roman, s'il vous plaît?
Eh bien, c'est la rade de Brest.
La rade de Brest, donc si vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné article 353 du Code pénal, édité par les éditions de Minuit, Grand Prix RTL Lire 2017, avec son bandeau rouge et la dédicace de l'auteur dans quelques instants. Merci infiniment à Julien Bisson qui nous a accompagnés dans cette belle aventure du Grand Prix RTL Lire 2017. Rendez-vous donc, nous sommes bien d'accord, à partir de jeudi, au salon du livre.
Enfin, inauguration jeudi soir, ouverture au public vendredi. Et merci. Remise du trophée jeudi soir avec Tanguy Vielle.
Grand merci à vous, Bernard. Et on va retrouver maintenant avec beaucoup de plaisir Julien Courbet. Julien.
Ben, merci beaucoup, il est là. Écoutez, journée de débat aujourd'hui, tout va bien. Et on va démarrer avec un cas, mais alors extraordinaire.
Dites-moi. Mon Yves.
Non, mais prenez votre café et écoutez ça au moins 10 minutes. Offrez-vous une petite pause.
Moi, je veux bien.
D'un monsieur qui habite dans un immeuble fantôme.
Ah oui, j'ai entendu la promo, c'est formidable. Incroyable.
L'immeuble est neuf. Il n'y en a qu'un qui a été fait ou deux, je ne sais plus. Et ils sont là, les deux au milieu d'un immeuble en construction. Alors les deux sont finis, sauf le tour.
C'est le début d'un roman.
Ah, mais il y a même de la vidéo, il y a tout. C'est vraiment de quoi passer une bonne matinée. À tout à l'heure, mon Yves. Merci. À ce soir avec toute l'équipe de la rédaction pour le débat.
Bonne émission.
Ciao, ciao.